Marie Vizeau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, rédactrice en chef adjointe au Figaro, Mathieu Plane, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Rafik Smati, bienvenue.
Bonjour.
Chef d'entreprise dans le digital et également fondateur d'Objectif France, qui est objectivement un parti politique dont on parle peu, mais enfin qui quand même a fait parler de lui pendant la campagne présidentielle. Voilà, je le disais, Olivier Dussopt a tenté en vain de convaincre les syndicats hier en les rencontrant à son ministère. Ça s'est très mal passé pour plein de raisons. Il leur a fait une sorte de cour magistrale sur le fonctionnement du rapport du corps, devant des syndicalistes quand même très informés sur le sujet. Le côté, la retraite pour les nuls, ça leur a pas plu. Ensuite, paraît-il qu'il pianotait sur son téléphone à l'issue de cette présentation magistrale. Et en tout cas, clairement, à la sortie, c'était non, on n'en veut pas. Et si vous mettez le doigt là-dedans, en plus, par amendement, glissé dans la loi de finances de la Sécurité sociale, vous ne comptez plus sur nous pour aucun des dossiers du moment. Comment vous regardez cette histoire, Marie Vizeau? Avec l'œil économique, avec l'œil politique, avec l'œil de la raison, avec l'œil de la passion.
Bah, finalement, il faut le regarder avec tous ces yeux-là.
Mettez le micro plus entre vous et moi, parce que là,
sinon, personne ne va nous entendre.
Exactement.
Ce serait dommage. Non, il faut le regarder avec tous ces yeux-là pour comprendre l'enjeu et les défis qui se posent en ce moment. Alors, la retraite, c'est quand même un sujet dont Emmanuel Macron parle depuis son premier quinquennat.
Oui.
Il se le traîne, hein. On peut le dire. À chaque fois, il y a eu de bonnes raisons, entre guillemets, qui ont fait qu'il a repoussé la mise en place de la réforme. Alors aujourd'hui, il a l'air décidé d'y aller, hein, vous l'avez dit, 49-3 via l'amendement dans le PLFSS. Alors c'est pas fait encore, hein, c'est un scénario qui se dessine.
Et mais quand on dit passage en force, c'est un passage en force démocratique, mais c'est un passage en force.
Hein. Bah, de toute façon, si on le met via un amendement, ce qui ne s'est jamais fait.
Ben voilà. Les sénateurs le font tous les ans, mais bon, ça sert à rien, mais ils le font.
Ça reste les sénateurs.
Voilà.
Donc voilà, donc c'est ce qui est ressorti de la réunion qu'ils ont eue hier, c'est un passage en force, on n'acceptera pas, vous noircissez le tableau pour nous imposer votre réforme. Vous avez dit, c'est un cours magistral. Bon, il a effectivement repris, il a fait des beaux slides résumant le rapport du corps. On les a récupérés hier. C'était bon, voilà, il a fait une présentation qui ne peut pas être acceptée par les syndicats sur le fond, dans le contexte, politiquement. Alors politiquement, on peut en reparler aussi. Ça va être explosif, cette affaire. Enfin voilà, il est à la fois dans une brèche parce que si on est en récession en 2023, on pourra en reparler. Il sait qu'il pourra pas le faire.
C'est clair.
Et en même temps, personne n'en veut. Donc voilà quelle est la situation aujourd'hui. Là, on a dressé un tableau qui lui donne toutes les chances pour réussir.
Ouais. J'entendais Robert Ménard là ce week-end. J'ai trouvé qu'il avait raison en fait quand il disait bah, je veux bien qu'on fasse du débat pendant 6 mois, pendant 12 mois, mais, enfin, sur un sujet comme les retraites. Faites 12 mois de débat, 18 mois de débat, 24 mois de débat, vous n'aurez jamais de consensus. Vous aurez toujours une opposition. Et en plus, un contexte de récession, ça n'arrangerait pas les choses. Même vision, Mathieu Plane, du sujet. Après, on peut reparler du rapport.
Non, moi j'ai
une
vision assez partagée là-dessus. Hein, mais qui, à la fin, est finalement un choix politique.
Pur, oui.
Je crois qu'on peut se baser sur le rapport du corps, mais c'est pas si utile que ça.
Je suis assez de votre avis.
Et au fond, qui est d'ailleurs, pourtant, je trouve que c'est vraiment un institut qui fait bien son travail, qui publie des rapports réguliers, qui sont mis à jour. Donc ce conseil d'orientation des retraites est nécessaire. Mais on voit aussi la fragilité de ces projections, hein, je veux dire. Et à juste titre. Nous, on fait des prévisions à l'OFCE, on connaît la difficulté de faire des prévisions.
Ils se projettent à 2035-2050, oui, c'est encore plus compliqué.
Encore plus compliqué. Et donc, du coup, voilà, on voit qu'il y a un déficit potentiel sur les régimes de retraite, sous certaines hypothèses, y compris le taux de chômage, parce que regardez l'hypothèse qui est prise sur le taux de chômage, qui est assez particulière. Le taux de chômage baissera à 5%, puis remontera à 7% dans le rapport du corps. Donc, c'est quand même déjà un peu discutable. Quand, par exemple, vous baissez la masse salariale des fonctionnaires, ça fait finalement moins de recettes fiscales parce que vous avez moins de prélèvements. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des paramètres un peu particuliers, hein, si vous regardez l'ensemble de ces choses-là. Tout ça pour vous dire que au regard du contexte économique actuel, la fragilité des projections, la déficit, le potentiel de déficit ou pas à venir, je trouve que l'instant est assez mal choisi pour faire une réforme qui, à mon avis, ne pourrait pas être absorbée dans le contexte économique et social actuel, pour des raisons assez simples. C'est que on est face à un retournement conjoncturel important, qui aura des conséquences certainement sur le marché du travail. La problématique, c'est qu'on a déjà des réformes qui sont en cours, qui est celle de l'augmentation des durées de cotisation à 43 ans à l'horizon 2035. Donc il y a la question d'accélérer le calendrier, mais il y a aussi la question de maintenir les seniors en emploi. Et pour ça, il faut de l'activité, il faut créer des emplois. C'est-à-dire que du coup, c'est possible d'absorber le choc, y compris sur l'emploi, dans une situation conjoncturelle favorable. Moi, je crois qu'on ne peut pas délier la question du chômage, de la conjoncture, de la réforme des retraites. Or, prenez pour le coup n'importe quel prévisionniste, 2023, c'est assez catastrophique. Donc si vous rajoutez une réforme des retraites là-dessus, ça risque d'être contre-productif. Ça veut dire que moi, je pense qu'elle doit, on doit faire peut-être une réforme des retraites, mais qu'il n'y a pas urgence. En tout cas, je pense que le timing est important, et avoir un mauvais timing, c'est contre-productif.
Alors après, mauvais timing ou ce sera jamais le bon moment, vous voyez.
Non, non.
C'est un peu ça le problème. C'est quel est le scénario, quelle est la conjoncture qui permet de le faire. Alors même si dans ce que vous dites, Mathieu, le plus important, c'est 33% des seniors en emploi. Oui. Donc avec ça, on a résumé quand même le défi qui est celui de cette réforme des retraites. Mais quand est-ce qu'on l'a fait?
Le problème qu'on a, c'est que il faut, alors une fois de plus, il y a question de la trajectoire, parce que quand vous regardez les projections du corps, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça dépend beaucoup du scénario de productivité, du niveau de taux de chômage, de savoir est-ce qu'on réduit par exemple la masse salariale des fonctionnaires. Donc c'est des paramètres qui sont quand même assez fragiles. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt en excédent. Qui aurait pensé qu'on aurait un excédent sur les retraites en 2022? Personne. Ce que je veux dire, c'est pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de création d'emplois, qu'on a une masse salariale qui est dynamique.
Oui, on a eu. Donc, ce que je veux dire, c'est que
dans l'année prochaine, on nous dira peut-être quelque chose de différent.
Dès l'année prochaine, ça retombe dans le rouge.
Alors, dans les prévisions.
Mais
2022 devait être dans le rouge, il n'est pas dans le rouge.
Pour les prochaines 25 années, d'accord. Quels que soient les scénarios.
Moi, je trouve qu'il faut, en tout cas, mettre en accord la question de la trajectoire du marché du travail et celle des retraites. Je trouve que c'est très difficile de dire, quand vous faites des prévisions, en fait, on va avoir potentiellement un chômage qui augmente, et dire, on va allonger la durée de cotisation, reporter l'âge légal. Après, c'est pas la même chose, hein, de reporter l'âge légal.
On attend que les planètes s'alignent, on fera jamais rien.
Oui, mais du coup, ça sera contre-productif. Vous allez faire des chômeurs. Voilà, enfin, je le dis juste, en 2023, vous allez accroître le choc sur le marché du travail avec un risque de tension sociale qui peut être important.
Surtout si
les banques centrales précipitent. Je veux dire, l'urgence, elle va être quoi? Elle va être de passer l'hiver.
Oui.
De passer l'hiver, d'avoir des approvisionnements. Ça va être le risque Covid qui peut revenir. Ça va être le problème monétaire. C'est les taux d'intérêt. C'est effectivement les marges de manœuvre budgétaires, mais plutôt à court terme. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec Emmanuel Macron aussi, c'est que faire des économies sur les retraites, c'est pour financer les retraites. C'est pas pour dégager des marges de manœuvre pour la transition écologique. J'ai entendu dire ça. Je sais pas si vous avez entendu. Un des éléments qui a été mis sur la table, c'est de dire faisons une réforme. Comme ça, on va dégager des marges de manœuvre budgétaires pour financer l'éducation, la transition écologique.
C'est plutôt le message, d'accord.
Mais pourquoi les retraites financeraient la transition écologique? Pourquoi ça ne serait pas un ensemble fiscal? Pourquoi on ne peut pas parler de comment on finance la transition écologique? Et pourquoi ça serait les systèmes de retraite? Les systèmes de retraite, c'est des régimes sociaux qui sont censés être équilibrés à long terme. Vous cotisez pour des pensions de retraite, pas pour financer la transition écologique. Sinon, vous réfléchissez à la fiscalité dans sa globalité.
D'accord, mais il y a l'idée quand même de baisser la part des retraites dans la dépense publique de manière à pouvoir...
C'est ce qui va être le cas.
Oui.
Dans les projections, elle baisse. Oui, le problème, c'est les recettes fiscales.
Oui. Rafik, votre avis par rapport à ça, chez Objectif France, vous êtes quand même plutôt en train de vous dire qu'il faut absolument aller de l'avant. Donc j'imagine avant votre réponse que vous allez me dire oui, ben ce sera jamais le bon moment, donc il y a un moment on n'est plus sur le bouton.
Mais c'est une évidence.
Ah bon, c'est une évidence. Ben voilà, voilà pourquoi on est d'accord.
Évidemment que cette réforme des retraites doit intervenir, et elle doit intervenir le plus vite possible. Et je vais vous dire, je ne la présenterai certainement pas comme la réforme du siècle. Moi, je la présente comme une réformette. S'il s'agit de changer les paramètres de la réforme Touraine et éventuellement de repousser de un an l'âge légal de départ à la retraite...
Ce sont les deux pistes qui sont effectivement vaguement sur la table.
Je ne considère pas ça comme une réforme qui est de nature à casser l'équilibre social de notre pays et qui justifie que vous ayez des hordes de manifestants dans les rues cet automne qui sera, je le rappelle, extrêmement difficile pour notre pays, où nul ne sait ici ce qui va nous tomber sur la tête entre la crise énergétique et j'en passe. Je crois que la maturité de tout le monde, c'est d'accepter l'idée que nous avons un président de la République qui a été élu sur cette promesse et qu'il a donc la légitimité démocratique pour la mettre en œuvre.
Oui, mais ensuite, ça, on sera d'accord. Enfin, bon,
ensuite, les éléments de langage de l'extrême gauche qui consistent à parler du passage en force, etc. Moi, je ne rentre pas... Là-dedans, on a une constitution, le gouvernement, l'exécutif s'appuie sur ce qu'il a à sa disposition pour réformer, et c'est très bien. Et puis, vous savez, j'ai entendu ce matin sur votre antenne la secrétaire générale adjointe de la CFDT,
Marie-Lise Lyon, oui.
Affirmer que, effectivement, le gouvernement avait changé son pronostic de taux de chômage à 2035, et donc ça avait littéralement biaisé les chiffres. Mais moi je ne sais pas ce que sera le taux de chômage en 2035. La seule chose que je sais, c'est que qui peut le plus peut le moins. Il vaut mieux une réforme aujourd'hui, qui nous permette d'y voir plus clair très vite. Et si jamais on a un chômage à 2% en 2035, croyez-moi, vous aurez un régime populiste à ce moment-là qui viendra et qui proposera de faire partir les gens à la retraite plus tôt. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur le côté irréversible de cette réforme, parce que vous aurez toujours les populistes qui seront là pour travailler moins. Donc je crois que le courage politique, c'est de faire en sorte de travailler plus dès maintenant pour produire plus, parce que je rappelle que l'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est que nous ne produisons pas assez.
C'est pas alors, une populiste de dire sujets. Travailler moins, hein.
A,
je suis désolé,
il y a d'autres sujets. Non, mais il y a d'autres sujets à côté, de... qui est celui de la formation, qui est celui du chômage des seniors, etc., qui doivent être traités de manière systémique. Mais de grâce, ne passons pas l'automne sur cette réforme des retraites qui n'est pas la réforme du siècle et qui doit être mise en place. Je rappelle simplement, je voudrais finir par deux chiffres. En 2070, vous aurez 7 millions d'actifs.
Nous, Rafik, en 2070.
7 millions d'actifs en plus. Non, 7 millions de retraités en plus, 100 000 actifs en plus. Ça pose le débat.
Mais on va vers le 1 pour 1, on est d'accord.
Et en 1950, on était 5 actifs pour un retraité, et on va sur le 1 pour 1. Donc, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre que le système actuel ne tient pas.
Non, mais pas les grandes études, projection du corps, à 2070, elles ne mettent pas forcément des déficits. Hein. Vous avez des scénarios avec des excédents.
Mais
avec les mêmes ratios démographiques, ça dépend de la productivité.
C'est ce que je veux dire.
Si, productivité,
si
oui,
vous avez mais un taux chômage à 2%, alors, évidemment que vous aurez des excédents.
Non, le chômage est à 7% dans les projections du corps. Il est à 7%, lisez le rapport du corps. C'est pas ce que dit le rapport du corps. Les projections de productivité, c'est ce qui va déterminer les salaires réels, alors qu'effectivement, les pensions de retraite évoluent comme les prix. Donc c'est le niveau de vie relatif des retraités qui diminue.
Vous avez commencé votre intervention en disant que le rapport du corps, vous vous en fichez.
Non, j'ai pas dit.
Non, il a pas dit ça.
J'ai dit qu'il y avait des choses techniques dedans. Et ces paramètres avaient des conséquences sur les résultats. De dire que c'est ancré dans le marbre qu'on aura un déficit de 0,5 ou 0,6 points de PIB en 2035,
évidemment,
je n'y crois pas.
Bien sûr.
Voilà. Donc, et je dis juste que cette réforme, elle peut être menée à un moment où l'économie peut l'absorber. Voilà, c'est ce que je dis. Et concernant le temps de travail, bien sûr qu'on est tous pour augmenter le taux d'emploi, bien sûr qu'on est tous éventuellement pour avoir tous un emploi en CDI à temps plein. La question, c'est que vous reportez l'âge légal, c'est qui va supporter le report de l'âge légal ? Est-ce que c'est ceux qui ont commencé à travailler jeunes qui ont leur durée de cotisation ? Mais alors à ce moment-là, c'est pas très juste, quoi. Ou alors vous mettez des dispositifs de pénibilité, vous mettez des dispositifs.
Il y en aura.
Oui, mais alors à ce moment-là, vous faites plus d'économie. Non, mais... Donc les économies, on les fait comment ? Oui, donc forcément, c'est pas des économies douces. Ce que je veux dire, c'est que on peut discuter sur l'agenda. Il y a quand même ça aussi qu'il faut dire, c'est que en 2010, l'âge moyen de départ à la retraite, c'était 60 ans et demi. Dans les projections du corps, sans réforme, enfin avec les réformes actuelles, on passe à 64 ans. Donc c'est aussi faux de dire qu'il n'y a pas de réforme. C'est ça que je veux dire.
C'est la déformation de l'âge effectif de départ.
Mais bien sûr.
D'accord. Oui,
mais donc déjà, c'est la montée en charge. Depuis 30 ans, il y a des réformes qui ne sont pas des réformes brutales, mais il y en a eu plusieurs successives qui ont quand même des effets et qui font qu'on arrive à 64 ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas explosif. C'est-à-dire que moi, je pense que la question sur la santé est beaucoup plus explosive que la question des retraites. Mais on n'en parle pas.
Enfin, voilà. Sur la santé, vous pensez à quoi sur la santé ?
Bah, la santé, le vieillissement de la population. Dépendance. Je pense post-Covid et justement tous les traitements qu'il peut y avoir, la question de l'hôpital, etc. Je pense que les déficits sur la santé, d'ailleurs quand vous regardez les projections à long terme, y compris de la Commission européenne, sont beaucoup plus alarmantes que sur la question des retraites. Mais bon, tout le monde a mis l'accent sur les retraites.
Enfin, là où je suis vraiment de l'avis de Rafik, c'est que dire qu'on va allonger la durée de cotisation d'un trimestre tous les deux ans et pas tous les trois ans, et qu'on passe l'âge de départ à 63 alors qu'il est en effectif à 69.
Ok.
Mais ça, on casse pas le système social.
Non, on casse pas le système social, mais est-ce que c'est ce qui va être fait ?
Bah, en tout cas, s'ils allaient plus loin que ça.
D'accord. Ok. Mais si vous avez la réforme déjà.
Non. Mais je regarde un peu ce qui se dit. Alors il y a Tony qui m'écrit. Mince, j'ai perdu Tony. Il m'écrit quoi ? Pour tenter de réformer les retraites, ne faudrait-il pas juste insérer dans la loi la règle que cette caisse ne peut plus être déficitaire ? Une fois les cotisations dépensées, on ne donne plus. Là, tout le monde serait prêt à faire des ajustements nécessaires. Mais là où Tony a raison, c'est qu'un système assurantiel, normalement, c'est un système à l'équilibre.
Oui, mais qu'on fait avec les chocs conjoncturels quand vous avez un choc Covid ou quand vous avez une crise financière ? Du coup, vous revalorisez la valeur du point et donc les retraités ajustent leur niveau de vie.
Mais c'est ce qui s'est passé dans les pays.
Ils ont des fonds
en
fait,
aussi. Point.
Oui. Non, mais ils ont des fonds pour absorber les chocs conjoncturels. Donc la question, c'est en fait en termes de long terme, on va pas. C'est technique, mais c'est la question du déficit structurel
oui.
ou pas en fait. Voilà.
Bah, ça s'appelle CADES, hein, le déficit structurel.
Oui.
CADES, elle devait disparaître, je ne sais plus la première fois en quelle année, elle est prolongée jusqu'en.
Voilà, moi je pense, voilà, je vous dis une fois de plus, la conjoncture me semble pas très opportune.
J'ai un auditeur qui me dit qu'il faut augmenter de 1% les cotisations salariales. Bah ouais, mais enfin, c'est des prélèvements obligatoires en plus à ce moment-là. Ouais, mais ça baisse le net. Hein.
Est-ce que c'est et regardez, je vais vous dire juste un exemple.
Bon, après, on passe dans... parce que
non, mais c'est intéressant parce que là cette année, on a revalorisé les prestations de retraite de 5%.
Oui, au total.
De combien
oui.
les salaires vont augmenter?
Un peu moins de 5.
Autour de 3. Est-ce que
4,
les ouais. salariés vont aussi accepter pour maintenir? Et moi, je suis d'accord que c'est bien qu'on ait augmenté les prestations sociales pour les retraités, c'est une garantie du pouvoir d'achat. Mais est-ce que, du coup, les actifs vont considérer qu'il est normal que, dans ce contexte-là, on ait des salaires qui augmentent moins vite que les retraites et qu'on accepte de travailler plus longtemps?
Ah, l'acceptation, c'est... Oui,
ben oui mais, non, mais c'est
un plus,
débat
il y a eu
politique.
Une bascule.
C'est-à-dire, du coup, comment on partage effectivement l'effort? C'est la question. Donc, il y a la question des cotisations, il y a la question de niveau de vie, parce que, effectivement, sur les niveaux de vie, en fait, les retraités perdent dans niveau de vie parce que l'idée, c'est que les salaires augmentent normalement
oui,
plus
enfin,
vite.
Les retraités, les en moyenne, vivent mieux que les actifs
voilà.
aujourd'hui.
Donc. Oui, mais donc, du coup, alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut que les retraités participent à l'effort?
Ah ben, moi, je vais vous répondre oui, mais je vais me faire incendier, tout de suite, c'est certain. Mais
Parce que la question de la fracture générationnelle que vous posez, la question de la fracture générationnelle est juste.
Ah oui, totalement.
Et c'est vrai que dans notre pays, et ce n'est pas nouveau, hein, nous avons une génération, la génération du baby-boom, qui est une génération bénie des dieux, qui, au fur et à mesure qu'elle...
Vous allez vous faire démolir aussi.
Oui, oui, mais...
J'ai écrit, aujourd'hui.
J'ai écrit un livre il y a quelques années où j'ai parlé de ça et j'ai qualifié ça du complot des baby-boomers.
Évidemment,
c'est pas un complot au sens classique du terme, mais c'est vrai qu'on a une génération qui, c'est un fait générationnel majeur, qui a hérité d'un pays qui avait une croissance folle, qui avait zéro endettement et qui le laisse à ses petits-enfants avec une croissance nulle, un taux de chômage mirobolant et un endettement record. Il y a aujourd'hui un fait majeur. Les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Évidemment, les retraités ont plus de patrimoine que les actifs. Ça pourrait se comprendre parce qu'il y a le privilège du temps. Sauf que quand vous êtes un jeune aujourd'hui qui entre sur le marché du travail, vous avez intériorisé l'idée que vous ne deviendrez sans doute jamais propriétaire alors que leurs grands-parents qui n'ont pas forcément une carrière extraordinaire ont une maison et une résidence principale. Alors, ce n'est pas la faute aux grands-parents, évidemment, mais c'est un fait générationnel. Et je crois que, collectivement, il y a un vrai sujet et faire passer... Je rappelle, d'ailleurs, ouais. Emmanuel Macron a fait un truc très juste il y a quelques années. Il a augmenté la CSG sur les retraités. Parce qu'il y avait...
Mal lui en a pris.
Parce que...
On est revenu en arrière oui, au bout non, de 18 mois.
Avec un paquet
à 17 voilà. milliards.
Oui mais, il y avait une anomalie que je ouais. n'expliquais pas. Pourquoi les revenus issus des pensions de retraite ont moins de CSG que les revenus issus du travail? Enfin, il y a une injustice générationnelle majeure qu'il était juste de corriger.
On considérait que les retraités n'étaient pas devant les mêmes risques assurantiels que les actifs. C'est ce qui justifiait qu'il y ait justement une CSG
différenciée. Oui, mais il y a quelque chose qui s'appelle la solidarité nationale. Quand vous avez été une génération bénie des dieux, l'idée que vous contribuez pour permettre à vos enfants et à vos petits-enfants de vivre dans une situation convenable, c'est quelque chose qui me paraît parfaitement recevable.
C'était quoi l'expression de votre livre?
Le complot des baby-boomers.
Dans
un livre qui s'appelle Éloge de la vitesse.
Mathieu Plane,
Non, mais ça montre qu'il y a un débat. Il y a un débat sur la façon de faire, quand même. La façon de faire, c'est-à-dire que est-ce que effectivement ça passe par plus de cotisations? Est-ce que ça passe par les gens doivent travailler plus longtemps? À quel rythme? Qu'est-ce qui se passe pour les niveaux de vie des retraités? On voit que effectivement il y a un changement de braquet d'Emmanuel Macron sur le sujet parce que 2017, il explique que le niveau de vie des retraités est trop élevé par rapport à celui des actifs et qu'il fallait transférer du revenu. Et c'est ça la hausse de CSG versus baisse de cotisation du revenu des retraités vers les salariés pour qu'ils donnent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus du tout dans le même schéma. Il y a un choc inflationniste. Et tant mieux, mais les plus protégés aujourd'hui, c'est plutôt les retraités parce que leurs prestations sont revalorisées, ce qui n'est pas le cas du salarié
oui,
qui va devoir négocier.
Voilà. Vous n'allez pas lui mettre 1% de cotisation en plus et après se désespérer que les salaires nets sont plus bas
qu'ailleurs. C'est qui partage ce choc-là? Je veux dire, globalement, la question, donc dire c'est juste l'âge légal, moi, me semble un petit peu court. Quoi, voilà. Et que ça mérite un peu plus que de débat dans un contexte économique particulier et notamment avec on en reparlera peut-être, des perspectives d'inflation qui peuvent être assez différentes à moyen terme.
Bon. Alors nous qui sommes entre amis,
Marie Bizot.
Nous qui sommes entre amis, essayons d'imaginer le ton de la discussion entre les syndicats et le ministre du Travail hier. Ça devait être quand même un petit peu costaud.
Bon, il y a un auditeur. On a déjà fini la première partie. J'entends la petite musique qui s'emballe. Mince, alors qu'est-ce qu'on a comme temps pour les retraites? Il s'appelle Danvelgui qui me dit: jouer sur le curseur de départ à la retraite sans changer le système, ce n'est même pas une réformette, c'est un constat d'aveuglement dogmatique. Après, j'ai tous les auditeurs qui voudraient qu'on mette de la capitalisation, mais on n'ouvrira pas le débat là.
On pourrait en passer une émission. Non,
bon. Oui. Bon. Et quand même, le sujet, si vous disiez 33% des seniors qu'il faudrait garder dans l'emploi, ça, c'est pas un sujet d'amendement glissé dans un projet de loi de financement de la CSU.
Sinon, on fait des ruptures conventionnelles.
Ouais, bah, enfin, on en a
pas. Non, mais je veux dire, il y a les effets, les collatéraux de tout ça, quoi.
On dit un mot de l'assurance chômage dans un instant, le bouclier tarifaire. J'ai mon histoire de sixième, de quasi sixième branche de Sécu, hein. C'est que de la provocation. Enfin, c'est devenu un peu un piège pour l'exécutif. On voit qu'ils ont beaucoup de mal à trouver la porte de sortie. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas comme l'euro? L'euro qui était une autoroute sans sortie, disait Thibaut de Silguy, le bouclier tarifaire est devenu un dispositif sans sortie. À tout de suite.